L'Aréopage, l'émission littéraire de Nathalie Bouly.
Le 3 juin dernier, je vous ai fait découvrir et je vous ai emmené dans les coulisses du Salon des livres et des arts de Claret. On en a sorti 3 heures de son que vous avez eu le plaisir d'écouter cet été. Et là, on se retrouve en plein cœur de Montpellier, dans un endroit qui n'avait pas vu le salon depuis 3-4 ans. Je vous parle de Figuerolles, où on retrouve de nombreux auteurs qui étaient présents à Claret, mais d'autres. Et pourquoi, en ce début d'automne ou en cette fin d'été, avoir décidé de recommencer cette expérience à Figuerolles? Sur le salon du livre de Figuerolles, entre midi et deux, nous avons eu la visite de Nathalie Auziol. Nathalie Auziol, c'est la députée. J'ai eu le plaisir de la rencontrer à la Gerbe. La Gerbe, c'était les animations un peu alternatives. Et aujourd'hui, c'est la culture, les livres. Nathalie, beaucoup de plaisir à vous retrouver sur le stand des livres de Salengro.
Ah oui, alors déjà, j'adore à chaque fois qu'il y a des expositions comme ça, de gens qui font part de leur artisanat, qu'il soit littéraire, qu'il soit artistique, qu'il soit culturel. Moi, je suis aux anges. Donc, j'ai fait un petit tour, j'ai fait mes petites emplettes, pas mal de... Ah oui, oui, voilà, un livre par exemple sur les Montpellier-Rennes célèbres, ou en tout cas pas assez connus, je pense.
Alors là, je vous coupe, mais c'est Joe Papini, ça. Et je l'ai reçu à la radio et je voulais faire une animation à la Gazette sur ce livre que je trouve formidable.
Ah bah c'est une très bonne chose, je pense, parce qu'on parle souvent, vous savez, ici on a par exemple la place des grands hommes. Eh bien, il faut maintenant faire la part belle aux grandes femmes de Montpellier. Bon, voilà, c'est un des livres que j'ai pris. J'en ai pris un autre sur les voies de chemin de fer qui existaient à Montpellier dans l'Hérault et qui ont disparu. Et pourtant, bah, je pense que ça devrait nourrir une réflexion sur les mobilités, le besoin de train maintenant, etc. Bon, voilà, j'ai déambulé, j'ai pris pas mal de choses. Et puis, bon, il se trouve en plus que, bon, moi, j'ai une formation littéraire, donc forcément, je suis très sensible. Les livres, c'est mon univers. Et en plus de ça, il se trouve que ma permanence est à 2 pas. Donc, c'est une place que j'ai l'occasion de traverser un petit peu maintenant.
Quand on est député, on a le temps de lire encore ?
Je crois qu'il faut garder le temps de lire. Oui, oui, bah, j'essaye en tout cas. Alors c'est vrai que des fois, c'est des littératures un peu de circonstances qui peuvent être économiques, financières. Mais moi, je tiens quand même à essayer de garder des petits moments, surtout voilà, quand on sort de la pause parlementaire. Et j'ai repris un peu ma pile de livres qui attendait depuis quelques semaines. Et je m'en suis rajoutée du coup, aujourd'hui.
Question bateau, mais bon, c'est vrai qu'on s'est rencontrés dans plein de lieux différents. Mais sinon, je fais la chronique littéraire à la radio. Donc, j'étais libraire pendant 40 ans. Voilà, j'aime le livre. Et la question un peu bateau qu'on pose, c'est si le livre que vous aimeriez emmener sur une île déserte, le livre qui vous a marqué, changé, transformé, est-ce qu'il y en a un ?
Waouh, c'est dur de répondre à ça. Il y en aurait plusieurs. Un qui m'aurait particulièrement bouleversé. Peut-être un de Zola. Je pourrais pas dire un en particulier, mais Zola quand même avait ce regard très pointu sur la misère, la lutte de classe, et de façon une psychologie quand même des personnages qui, enfin, il ne parle pas juste en bien et en mal, ou en tout cas il montre la société telle qu'elle était au moment où il écrivait. Et ça a commencé quand même à me faire, j'ai dû commencer à lire Zola à 15-16 ans, un truc comme ça.
Alors la Terre, on l'étudie, moi je l'ai étudié la Terre en première.
Ouais, c'était avant de l'étudier en classe, c'est ma mère qui m'avait conseillé, elle m'avait dit je pense que tu devrais lire du Zola et je la remercie de ce conseil.
Moi c'est en lisant la Terre que j'ai tout lu le Zola dans l'ordre. C'est-à-dire depuis la fortune des Rougon jusqu'au docteur Pascal, parce que là, on est vraiment dans ce que vous dites, c'est-à-dire le déterminisme. En plus, comme une femme de gauche, le déterminisme, c'est pas quelque chose de très chouette, quoi. Je veux dire, on n'est pas déterminé à être forcément du côté des pauvres et des riches. C'est ce qu'il explique si bien dans toute l'œuvre des Rougon-Macquart.
Oui, déjà, bravo d'avoir lu en entier. C'est une chose que j'aimerais arriver à faire, que je ne suis toujours pas arrivée à faire. Mais oui, je crois qu'il y a quand même, il y a encore, je veux dire, il est à la fois ancré dans son 19e siècle et à la fois très d'actualité, je trouve. Hein, parce que ça fait quand même réfléchir, y compris aux injustices sociales, ouais, je crois. Et en tout cas moi ça m'avait pas mal plu, mais bon, il y aurait beaucoup beaucoup de livres. Ma bibliothèque est très riche, si je pouvais l'emmener en entier sur l'île déserte, ce serait très bien.
Et un jour on se met un rendez-vous et puis vous venez nous parler que livres.
Avec plaisir, quand vous voulez.
Merci beaucoup Nathalie Auziol, merci.
Merci.
une torpeur estivale. D'ailleurs, nous sommes encore en été, plane sur la place Salingros. Certains auteurs cherchent désespérément de l'ombre. Avec les platanes ont été taillés rudement. Je ne sais pas si tu as déjà fait des articles sur la taille des platanes, mais c'est un peu dur, la taille des platanes. Et je suis en compagnie de Jean-Marie Dine. Jean-Marie Dine était aussi à Claret. Voilà, on avait une table presse. Il y avait Jean-Marie avec Alter Midi. Tristan Cuche, qui est toujours là-bas. Et là, on se retrouve à Figueroles après 5 ans d'absence. Vous veniez déjà, Jean-Marie, du temps des premiers salons de Figueroles ?
Je venais, oui, mais en tant que visiteur. Parce que c'est un quartier que j'apprécie à Montpellier, qui a conservé sa dimension populaire, pluraliste, éclectique. Et je pense que c'est une carte forte de Montpellier qu'il faut absolument conserver.
C'est vrai que longtemps, la mairie voulait en faire le pendant bobo chic des Beaux-Arts. D'un côté des Beaux-Arts et Figueroles. Or, Figueroles, ne serait-ce qu'à travers toutes les associations qui sont la Carmagnole en tête, mais bien d'autres, reste quand même beaucoup plus révolutionnaire que les Beaux-Arts.
Je crois que historiquement, et Thierry Arcax le dirait mieux que moi, c'est un quartier populaire où il s'est passé pas mal de choses. Mais sur Montpellier, ce qui est génial, bon, il y a toute une politique autour de la citoyenneté, comme tous les politiques publiques cherchent à se rapprocher des citoyens, mais quand les citoyens se prennent en main eux-mêmes et font vivre leur quartier, je crois qu'il n'y a rien de tel.
Je suis allée, c'était en mai, à la Grande Parade Métèque, et il y avait justement toutes les associations du quartier, les crèches du quartier, les associations culturelles, mais pas que. Et c'est vrai qu'il y avait une vraie volonté, notamment j'avais rencontré le comité de quartier, d'être vivant et d'avoir des actes, notamment pour sauver un petit jardin par-ci. Enfin, ils sont très engagés dans la vie, c'est pas juste consultatif. Le comité de quartier Figueroles, c'est vraiment un comité de quartier militant. Militantisme, c'est aussi Alter Midi. C'en est où en ce moment d'Alter Midi, Jean-Marie ?
Alors, je dirais pas militant à propos d'Alter Midi, mais engagé. Et il y a une différence importante qu'on tient à marquer. On est engagé sur une valorisation de l'information, on est engagé sur la volonté de contribuer à un rapprochement entre les politiques et les citoyens, en sachant que c'est immense comme travail, mais on travaille à ça. Mais on n'est pas militant. J'ai dans mon passé travaillé devant des journaux militants et je sais quelle est la différence. Et justement, je cherchais avec l'équipe avec qui on a monté ce journal à ne pas faire un journal militant, mais un journal citoyen. Faire participer les citoyens. Lily, qui est là avec nous, Lily Frick, poète, par exemple, participe à notre aventure. Elle a une chronique qui s'appelle Hiatus, où elle va aborder, on travaille en comité de rédaction, on réfléchit ensemble. Mais une fois qu'il va s'agir de traiter de l'information, elle va le penser avec son esprit de poète. Et à côté, on va avoir un travail journalistique plus classique, on va avoir des témoignages, et tout ça fait la richesse d'une information régionale, et c'est ce à quoi on travaille depuis un certain nombre d'années maintenant.
Vous étiez venu nous voir en studio d'ailleurs avec Lily, hein. Lily, vous nous direz quelques mots après quand même sur cette rencontre. Si c'est pas militant, en tout cas, chaque numéro à sortir est un combat. Vous en êtes où aujourd'hui, après 6-7 numéros ? Le prochain sera le 9e.
Eh bien, on est sur la plateforme d'information, donc il y a de plus en plus de monde qui vient. C'est consultatif et c'est gratuit. Et puis pour le magazine, on est distribué en kiosque. Les ventes montent petit à petit. Hein, on est distribué sur les deux régions, Occitanie et PACA. Mais bon, je cacherai pas que c'est difficile de s'en sortir. Mais ça fait partie de ce mouvement qui est riche et pluriel de la presse indépendante, où des gens professionnels de l'information pour la plupart veulent apparaître. Et c'est une nécessité pour la démocratie aujourd'hui de travailler cette information-là. Donc on s'accroche. Et puis on est dans un pays aussi où pour exister, pour vous faire reconnaître, il faut une dizaine d'années. Autrement, donc il faut tenir la barre au prix parfois de sacrifices importants et beaucoup de travail, et beaucoup de bénévolat. Mais en tenant la barre, moi je reste confiant et positif. parce qu'on fait tous les jours de nouvelles rencontres et elles sont enrichissantes pour nous et puis pour, j'espère, nos lecteurs.
Donc on est aussi en compagnie de Lily Frick. Lily, vous me l'avez présenté quand vous êtes venue en studio. Vous m'avez dit, Nathalie, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais venir avec Lily. Mais quelle joie, quel bonheur. Et parce que je ne connaissais que la créatrice, je ne connaissais pas la femme à l'époque. On ne s'était pas parlé en vrai. Et puis ça a été une belle rencontre, voilà. Et des beaux moments après. Lily, pour vous, être accompagnée comme ça, Jean-Marie, sur un salon, c'est important aussi?
C'est étonnant. J'entends pas ma voix, c'est normal? Ah d'accord. C'est très très étonnant. En fait, moi je fais tout par rencontre. C'est un jour j'ai rencontré Jean-Marie. Jean-Marie m'a demandé justement si je voulais bien écrire dans son journal, dans un journal. J'ai pensé à rien, j'ai simplement écouté Jean-Marie me parler. C'est à cette voix qui me parlait à ce moment-là que j'ai répondu. Et ça, c'est important parce que je suis aussi de la même façon aujourd'hui ici à ce festival. Il n'y a aucune préméditation. Je connaissais pas. Jean-Marie m'a demandé de venir. Et c'est dans cet espace-là que, justement, je découvre la place Figuerolles. Et je me disais, en vous écoutant tout à l'heure, que oui, c'est vrai. Figuerolles, c'est un endroit où la vie ressemble à la vie. C'est pas bricolé, parce que souvent, maintenant, avec les écrans, etc., la télé-réalité, en fait, on filme la vie, on fait en sorte que la vie ressemble à l'idée qu'on a de la vie, ou en tout cas, et là, sur cette place Figuerolles, on dirait que la vie est libre, qu'elle a personne, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de storytelling, il n'y a pas d'atelier d'écriture pour la vie, elle se démerde toute seule. Apparemment, c'est une vie. C'est important, ça, c'est une vie qui peut tomber amoureuse toute seule. Elle n'a pas besoin d'un Américain, d'un storytelling pour lui dire, voilà, que ce mec-là, là-bas, à gauche, c'est celui-là qu'il faut qu'elle aime. La vie, elle aime qui elle veut. Je préfère la version bohème. Donc,
juste pour bien qu'on entende ma voix, quelques mots, Lily. Sur le stand, il y a vos deux livres, Un mot sans l'autre. Est-ce que vous acceptez? Je vous demande pas d'en parler parce que je sais que c'est difficile de parler sur un bout de table comme ça d'un livre aussi intime en plus. Mais je vous invite vraiment à venir en parler très vite à la radio. Hein?
Par contre, c'est vital pour moi de ce livre-là et c'est vital pour moi de pouvoir en parler, d'avoir quelqu'un pour en parler, de pas être seul pour en parler. C'est un dialogue et c'est une façon aussi de donner à l'interlocuteur de nouveau une vraie place et sa vraie valeur. Donc avec plaisir.
Merci beaucoup Lily, merci Jean-Marie, à très bientôt. Après la presse d'Alter Midi et la poésie de Lily Frick, je retrouve un auteur que je vous ai déjà présenté dans les jardins de Claret Opage, Philippe Castelnau. Bonjour Philippe Castelnau.
Bonjour.
Philippe, depuis ce début d'été, on s'est vu en début d'été, fin de printemps. Ouais, 4 juin je crois, 3-4 juin, tout est premier, voilà, dans les très beaux jardins de Claret. Là, on se retrouve à Figuerolles. Fidélité à l'esprit Thierry Arquet, qui est juste en face de nous. Plaisir de retrouver des amis, je pense aussi, et puis des lecteurs que vous n'avez pas pu voir à Claret.
Oui, tout à fait. Alors, c'est à l'invitation de Thierry que je suis là. Et c'est une très belle initiative, après Claret, de voir qu'on renoue ici aussi à Figuerolles. Et c'est l'occasion de recroiser plein de gens, comme Jeanine Tesson ou Simon Baril qui était là, et puis de découvrir plein de nouveaux auteurs aussi. Voilà, c'est un bel échange.
Et puis là, j'ai eu le plaisir de voir Françoise Abeau. Françoise Abeau qui est à l'origine de ma rencontre avec vous. C'est Françoise Abeau qui a adoré Motel Valparaiso et qui m'avait dit, il faut absolument que tu le reçoives. Donc il est là aussi, Françoise Abeau, sur les jardins, sur les terrasses.
Oui, bah François, je le connais depuis très très longtemps. Oui, c'est vraiment quelqu'un de très attachant, de très talentueux. C'est vraiment une très très belle personne et ça fait plaisir de le croiser à chaque fois.
Un pitch court de ce Motel Valparaiso?
Eh bien, un homme se retrouve dans le désert du Sonora, dans un motel, et il s'arrête pour quelques jours, et finalement, il y reste, et il ne sait pas pourquoi il y reste, il se met à écrire un livre, et il s'aperçoit qu'autour de ce motel, il y a une ville, et que cette ville semble s'étendre, et les gens qui sont là n'en parlent pas. Alors, sont-ils prisonniers de cette ville, en quelque sorte, ou est-ce un choix ? Voilà, tout est la question est là.
Une question dont vous répondrez un peu plus au micro, puisqu'on a pris rendez-vous, on n'a pas fixé la date, mais avant Noël, pour venir en parler à la radio. Merci beaucoup. Merci. Merci Philippe Castelnau. Début juin à Claret, nous étions ensemble, mais de ce côté-là du micro, du mien. Là, je suis face à Marie-Agnès Salezada, qui est du côté des auteurs aujourd'hui et qui propose eh bien évidemment son magnifique Papillon des jours d'automne, qui a maintenant une bonne année, hein, Marie-Agnès ?
Qui est paru au mois de juin 2022, publié chez Ubicart, dont le directeur est Jean-Claude Rivière, qui fait de très belles publications, et assisté dans cette mission par Virginie Guidé. Donc c'est une publication format carré 21 par 21, avec une très jolie illustration.
Et contrairement à la ligne graphique de Virginie Guidé d'ailleurs, le dessin, il n'est pas de Virginie, je crois qu'il est de quelqu'un qui vous tient bien à cœur, Marie-Agnès.
Alors oui, tout à fait, c'est le dessin de ma petite fille qui s'appelle Rose et qui avait à peu près 3 ans, je ne sais plus, oui, à peu près 3 ans quand elle a peint cette feuille de platane, Papillon des jours d'automne, donc en fait les feuilles qui volettent et qui atterrissent sur le sol et évoquent cette image du papillon. Et donc, je pense que sa maman a fait un pochoir et elle a rempli de gouache. Et ça me fait une très jolie première de couverture. J'en suis très fière. Et j'ai associé également mes autres petits-enfants, Jules et Sacha.
Alors, je sais bien qu'on est dehors. Je sais bien que c'est un peu improvisé. Mais est-ce que vous accepteriez de lire un texte, Marie-Agnès ?
Mais tout à fait volontiers. Donc, en fait, je suis quand même hédoniste, hein, quelque part, amoureuse de la nature. Et voici que septembre vient sur sa fin. Montagne transmuée en sainte chapelle, vêtue du citrin, de la glycine, ambre des noyers, péridot des saules, grenat de la vigne, émeraude des pins, béryl des astères, rubis des sorbiers, topaze de l'érable. La pupille réagit, la rétine s'impressionne, extase de la vision, au chant de la forêt, frémissement du saule aux feuilles libellules, dentelle d'émotions, des bonheurs évanouis. Dame nature offre une jouissance au regard sur sa tunique d'automne.
Merci beaucoup Marie-Agnès Salezada. Je vous laisse en compagnie charmante de Jean-Philippe Martin que j'ai rencontré il y a un petit moment et qui a une grosse culture sur cette histoire de la nouvelle gauche paysanne. On a déjà bien échangé, un homme passionnant. Je vous laisse avec lui.
Voilà. Je vais découvrir, je vais l'interviewer un petit peu, faire connaissance en... autour de ses écrits. Merci Nathalie Bouly.
Merci Marie-Agnès Salezada. Et toujours place Alain Gros, j'ai le plaisir de retrouver... quelqu'un que je vous avais présenté lors du Salon du Livre de Claret, mais il s'en fout, mais il est comme ça, Karine. C'est un insaisissable, c'est ça qui fait son charme. Je suis avec Tristan Cuche. Tristan, vous le connaissez parce que tout le monde connaît La Glorieuse. Si vous ne connaissez pas La Glorieuse, vous connaissez La Mouette. Voilà, hein, c'est la même chose, c'est le même personnage. Et avec beaucoup de plaisir donc sur ce cœur de Figueroles, sur la place Alain Gros, fidèle au Salon des Livres organisé par Thierry Arquet. Quelques mots, Tristan, sur cette journée. Vous avez changé de place déjà, vous étiez en plein soleil, ras-le-bol. Les poubelles et le soleil, ras-le-bol.
Ouais, ça fait deux choses en trop. En plus, il y a un oiseau qui m'a fienté sur la tête pour couronner le tout.
Journée de merde.
C'est la Shkoumoun.
Et en plus, vous avez balancé un budget monstrueux en bâton d'encens.
Ouais, voilà. J'ai mis de l'encens pour couvrir l'odeur de la poiscaille, de la pêcherie qui est dans les poubelles sur la place Salain Gros et qui renifle grave. Donc j'ai mis de l'encens mais ça ne couvrait pas l'odeur. Donc je remercie la pêcherie et Nicolin pour leur œuvre d'accompagnement pour le salon.
Dernier numéro de La Glorieuse, vous parlez de quoi Tristan ?
Alors, dans le prochain, il va y avoir des choses très croustillantes. On parle de l'intérêt culturel des promoteurs à Montpellier. Voilà, il y a mon ami Jean-Luc Nicolas qui arrive. Osons pour les enfants. C'est douteux, ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme autre sujet ? Il y a plein de choses. Il y a les syndicats à la mairie qui commencent à s'agiter. Il y a, voilà, et puis d'autres là dont, voilà, je me suis...
Montpellier, c'est plus calme l'été, mais là, la rentrée, ça va bouger.
Ah oui, la rentrée, ça, c'est, ça va dépoter grave.
Il y a le, en culture, il y a le projet 2028 qui est encore très présent à la mairie. Je pense qu'il va nous en parler à l'Antigone des associations, monsieur le maire. Mais oui, il y a beaucoup de choses. Ah bah oui, il y a l'histoire Dieudonné aussi cet été.
Eh ben oui, il y a eu Dieudonné là, qui est venu jouer à Saint-Gély dans une cave. Et donc dans le numéro de cette semaine, on l'a interviewé pour voir s'il était toujours aussi très méchant, comme on le dit. Voilà, nous on est un journal de liberté, donc on laisse la parole à tout le monde. Écoutez, faut le lire, hein, et ensuite vous faites votre propre jugement.
Il faut rappeler que l'Art Glorieuse, il est disponible dans tous les kiosques de Montpellier. Pas cher ?
Non, non, non.
C'est pas cher. Et on fait en plus, mission publique est bonne pour la ville aussi, d'avoir un autre ton.
Ben, la liberté, c'est important. La liberté, ça ne se clame pas que dans les discours. Ça se vit, voilà. Ça se vit. La différence, la liberté, la tolérance, voilà.
C'est pas facile des fois, Tristan ? Mais plus prosaïquement, on vous met des bâtons dans les roues, on vous menace, par exemple. Est-ce que vous avez déjà été menacé, tout ça ? C'est quand je dis c'est pas facile, c'est ça, c'est de cet ordre-là.
Oui, on est blacklisté, comme disent nos amis. On est blacklisté, voilà. Alors quand les gens sont dans l'opposition, ils nous abreuvent d'informations pour désinguer celui qui est en place. Et puis quand ils sont au pouvoir, ils nous blacklistent. Bon, ça va, on commence à avoir l'habitude. Ça va faire 23 ans.
Puis vous avez le sens de l'humour, donc ça va.
Voilà, et puis ce qui compte, c'est d'avoir le sens de l'humour, la bonne humeur. Et voilà, et d'entarter tous ces guignols régulièrement.
Il est mort, l'entarteur, je crois, en plus. Je crois qu'il est mort, Colin, non ? Le mec du Nord ? Non ? Ah non, ça fait longtemps qu'il ne fait plus parler de lui. Vous avez perdu votre, par rapport à Claret, vous aviez votre collègue.
Il devait venir et puis finalement il a eu un petit coup de mou, donc peut-être qu'il va venir. Je l'ai vu tout à l'heure, il m'a dit peut-être qu'il allait arriver là.
On lui a fait un clin d'œil amical tous les deux.
Voilà, un clin d'œil à vos auditeurs.
Merci beaucoup Tristan Cuche, à très bientôt, au revoir. Le Salon du Livre et des Arts de Figueroles, ce 3 septembre. Eh bien, je suis ravie de rencontrer, alors je ne sais pas, c'est Madame Claire, c'est, de la librairie Claire, librairie qui est formidable, librairie historique de Montpellier, librairie qu'on a vue un petit peu à l'écart à la Comédie du Livre, on va dire. C'est la dernière fois qu'on s'est vu. L'intérêt pour vous, le plaisir d'être à Figueroles, vous pouvez nous en dire quelques mots ?
C'est parce que je connais bien Thierry Arquet qui organise cette manifestation et que j'essaie d'être fidèle donc à chaque fois qu'il a fait appel à moi. Et puis je viens avec plaisir parce que d'abord je suis du quartier et ensuite je présente avec plaisir des livres donc sur l'histoire de Montpellier, des plans et je rencontre des personnes qui sont intéressées par l'histoire de leur ville. Je réponds volontiers à leurs questions. C'est une grande joie d'être là aujourd'hui.
Il reste des plans. Il y a des très beaux plans qui sont en vente pas cher, d'ailleurs, 5 euros. Il y en a un qui m'intéressait parce que j'avais lu le Félix Plater, hein, voilà, de Yves Demaz. Et je crois que Yves Demaz, des fois, signait chez vous lors des comédies.
Qui ça ?
Yves Demaz.
Ah oui, oui. Non, Yves Demaz, non, mais c'est quelqu'un que je connais bien. Monsieur Desmas, oui. Oui.
Et l'histoire même de Montpellier vous passionne aussi ?
Bien sûr, moi je suis une Montpellieraine et je suis très très intéressée par tous les aspects de la ville, l'histoire, l'architecture. Bien sûr, depuis toujours.
Alors que vous avez toujours eu votre place pleine et entière à la Comédie du Livre, là c'était surprenant de vous voir un petit peu à l'écart, si ce n'est beaucoup à l'écart. Ça a eu une incidence sur les ventes, sur le fait d'être comme ça mise dans une allée au Pérou ?
Évidemment, oui, on a été... Bon, moi j'ai eu le sentiment d'être un petit peu mise à l'écart. C'est l'organisation qui m'a... je ne vais pas rentrer là-dedans, mais voilà. Donc, nous verrons l'année prochaine si les choses s'améliorent, puisque déjà la prochaine comédie est déjà actée. Donc, je verrai si la situation est un peu plus avantageuse pour nous. Mais voilà, parce que le problème, c'est que quand même, c'est 3 jours de mobilisation et beaucoup de travail en amont et beaucoup de travail en aval. Donc, ne serait-ce que pour les écrivains et les personnes qui viennent signer sur leur stand, sur mon stand. Voilà, donc c'est à voir.
Vous pouvez nous rappeler l'adresse ? Parce que, je dis c'est une librairie historique, mais pour nos auditeurs, redonnez l'adresse.
Oui, bien sûr, c'est 7 rue Alexandre Cabanel, dans l'Écusson, près du boulevard Jeu de Pomme.
Merci beaucoup, merci. Au revoir. Bonjour Didier Amourou, comment ça va ?
Ça va bien.
Alors, on s'est vu à Claret, on s'est vu à Saint-Clément. Et d'ailleurs, Saint-Clément, je crois que l'interview passe cette semaine ou bientôt. Qu'est-ce qui s'est passé cet été ?
J'ai travaillé. Tu ne vas pas être trop étonné. J'ai travaillé sur la suite des étrangers du Val de Londres. Et alors là, tiens-toi bien, Nathalie. Mon histoire d'amour contemporaine entre Achille et Marie a continué dans le pays du Pic-Saint-Loup. Mais en plus de ça, il y a des intrigues, évidemment. On voyage, comme dans tous mes livres. Et puis, surprise, j'ai fait des recherches approfondies sur des événements qui se sont passés entre Ortus et Pic-Saint-Loup entre l'an 1080 et l'an 1124. Et je me suis vraiment éclaté.
C'est tout ça que vous allez raconter dans le prochain ?
Le prochain.
Là, je vous ai interrompu, vous étiez avec Jean-François Martinez, qui est sur nos hôtes, voilà, et qui lui aussi va être passionné sur le partage des eaux, je crois que c'est un peu ça.
Oui, la problématique de l'eau aujourd'hui est cruciale, et je lui racontais que dans le pays du Pic-Saint-Loup, l'animosité qu'il y a eu entre le village de Saint-Martin et celui de Viol venait de l'eau. Parce que Saint-Martin de Londres, il y a Londres, ça veut dire marécage, c'est en bas, dans une cuvette, et il y a une source, et il y a des petits ruisseaux. Tandis que sur le plateau schisteux, à 250 mètres d'altitude, il n'y a que des cailloux. Donc Viol n'a pas eu d'eau. Et il venait en piquer un peu à la fontaine, d'où des disputes, jusqu'en 1970.
Et voilà. Et c'est tout ça qu'on apprend dans vos livres, et plein d'autres choses en plus. On en apprend sur le Père Soulas, on en apprend sur plein de choses. Pour acheter vos livres, comment on fait ?
Là, rien de plus simple. Il y a l'adresse des librairies. Là, aujourd'hui, je suis sur le stand de la librairie Claire, en bas du Jeu de Paume. Il y en a aussi à Sorams, à Grain de Mots, à Fier de Lettres. Il y en a sur Internet.
Vous avez un site, Didier ?
J'ai un site, oui. www.didieramourou.fr.
Merci beaucoup. Et puis, je mettrai tout ça en lien. Merci, Didier. Merci. À bientôt. Après Didier Amourou, j'ai le plaisir de retrouver quelqu'un qui est venu parler de son livre il y a au moins 3-4 ans. Jackie.
Même. Oui, tu crois que ça fait tant de temps ?
Je crois même que c'était avant le Covid. Hein ? Et je vous avais reçu, Jackie, pour... il n'y en a plus, vous avez tout vendu ? Ah, voilà. L'amant qui venait de l'Est. Et alors, depuis l'amant qui venait de l'Est, une autre parution ?
Donc j'ai réfléchi à beaucoup de choses, j'ai eu d'autres idées. Mais là, non, depuis... pas d'autres parutions.
Et vous avez envie de réécrire, Jackie ?
J'y pense. Donc là, en ce moment, j'ai d'autres projets. Et puis après, je verrai.
Voilà. Vous nous faites signe. Voilà. Merci, Jackie Abosi.
Merci, je te remercie.
Et puis à côté, il y a Fabienne Sartori, c'est ça ? Voilà. On s'était rencontrés, Fabienne, à Claret. Et j'ai passé le son, d'ailleurs. Hein. Il est disponible. Si. Je vous enverrai le lien. Fabienne, vous vous retrouvez donc de Claret à Figueroles. Hein, le chemin est beau, en tout cas. Toujours pas loin de Thierry Arquet et de ses salons des livres et des armes. Aujourd'hui, si vous n'aviez qu'un livre à présenter, lequel vous présenteriez ?
Les poésies du 60e parallèle nord. C'est la première fois que j'écris de la poésie. Et il y a à la fois des paysages, paysages des Cévennes, paysages de la Suède, paysages du bord de mer. Et il y a aussi quelques poèmes un peu impertinents, notamment le poème Le Dragon.
Je crois que j'ai fait tellement de salons cet été, enfin, que c'est à Saint-Clément-de-Rivière qu'on s'est rencontrés. Vous étiez à Saint-Clément ? Non ? Aux journées des lectures d'auteurs ? Non, vous n'étiez pas ?
Voilà.
Poésie du 60e parallèle nord. Vous pouvez nous en lire une ?
Le Dragon. Il ne surgit pas d'un album jeunesse en couleur, mais il crache du feu sur vos aspirations. Vous avez des nausées, des palpitations. Terrorisé sur le siège, vous attendez l'heure. Quelle ambiance hyper moderne pourtant. Tout est pastel, le salon, la déco soignée. Il ne manque plus que des bougies parfumées. Décidément, quelle est la cause de vos tourments ? Où est la cohérence de votre parcours professionnel ? Sur votre cœur, vous froissez la convocation. Comment allez-vous répondre aux accusations ? Avez-vous consulté votre espace personnel ?
Merci beaucoup Fabienne Sartori. Vous avez une maison d'édition ? On peut vous rencontrer sur le net par un moyen quelconque ?
Je poste des poèmes sur Instagram, je suis sur Facebook en tant que citoyenne militante sur beaucoup de sujets.
Je mettrai tout ça en lien sur l'émission. Merci Fabienne Sartori. Alors, je m'assois à côté de Jean-Louis Beck. En plus, j'ai beaucoup à me faire pardonner parce que quand on a relayé le salon de Claret avec Marie-Agnès Salezada, que vous pouvez retrouver dans les jardins de Claret aux Pages, j'avais fait une jolie interview de Jean-Louis Beck, photographe, et j'avais pas appuyé sur le bon bouton. Donc là, on va pouvoir se retrouver. Bonjour Jean-Louis Beck.
Bonjour.
Donc des magnifiques photos qui sont presque des tableaux, des peintures. Hein. C'est très celle-là, là, avec l'arbre et le nuage derrière. Comment savoir ? Il y a de la retouche sur vos photos ?
Oui, ça c'est de l'argentique retravaillé. Oui, on fait monter le grain, voilà, essentiellement.
Vous travaillez toujours sur l'argentique ou vous êtes passé au numérique maintenant ?
Numérique, oui, oui.
C'est moins bien ou mieux ?
La technique est différente. Le numérique, c'est plus analytique, c'est du point par point. On peut s'y perdre. L'argentique, ça reste zone par zone, une vision un peu plus globale de l'image.
Et d'où vous vient votre inspiration ?
Un peu de partout. Je dirais à l'origine, c'est la nature qui m'intéressait. D'ailleurs, j'ai fait des études pour être biologiste. Enfin, je suis devenu biologiste. Mais ce qui m'intéresse, c'est le mystère, la notion de mystère, la notion de matière, la notion de forme, langage de la nature.
C'est vrai que chacune de vos photos est mystérieuse. On voit un petit bout et puis tout d'un coup on découvre autre chose. Là, celle-là, je l'avais remarquée, elle était exposée à Claret, celle-là. J'aime beaucoup. Ouais, elle était exposée sur ce chemin de fer désaffecté quand même presque, hein, qui mène vers où ?
Oui, c'est oui, il marche encore. Oui, c'est un réseau touristique. Hein.
Voilà, c'est les espèces de machins là.
Ouais, c'est ça. Voilà, sinon, effectivement, cette approche de la nature, là, j'en fais des livrets photographiques. Donc, j'associe photographie et texte. Voilà, je soutiens souvent un texte de présentation, semi-poétique. Enfin, je ne veux pas quelque chose de très formel, ni dans la forme, ni dans le sens. Et souvent, les photos sont agrémentées de textes. Alors, c'est souvent des poèmes ou ça peut être autre chose. C'est assez libre.
Et donc les livres photos, les livres de photos que vous exposez aujourd'hui, on peut les trouver comment ?
On les trouve sur, il faut me les commander, c'est sur le blog ou sur voilà, Instagram, des choses comme ça. Ouais.
En tapant votre nom dans le moteur de recherche, on tombe sur vous et sur votre travail ?
Oui, on tombe là-dessus, si on peut dire.
Ben, merci beaucoup et puis je suis désolée hein, pour... Voilà, mes aventures et qu'on a un peu rattrapé aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Louis Beck. Honneur aux dames, je suis dans un cercle de 4 auteurs. Alors, Vincent Blenet à ma droite.
Pierre Castel.
Pierre Castel à ma gauche. Anthony qui s'en va, voilà.
Hein. Non, il vérifie son stand, tout va bien.
Et puis Dame Régine Fournon. Bonjour Régine Fournon.
Bonjour Nathalie.
Damoiselle.
Damoiselle. Là, mais, non mais Régine quand même, elle se démerde pour avoir trois mecs autour d'elle. Hein. Mais je sais que vous avez une relation un peu privilégiée tous les deux.
Oui, oui, tout à fait. On s'est rencontrés au salon de Figueroa en 2018. Et en fait, on a énormément sympathisé. Et en fait, elle a participé après dans des bouquins que j'ai fait. Elle m'a fait une préface pour le 16e bouquin. Et elle avait fait deux poèmes qu'elle a mis dans son ouvrage « Enamorars ».
Votre dernier livre, allez, on va lui laisser le micro. J'avais dit honneur aux dames, mais c'est pas grave. On va faire honneur à Vincent. Vincent, vous, si vous aviez un livre pardon, dont vous voudriez parler aujourd'hui, dans vos livres, lequel ?
Le livre que je voudrais présenter ?
Oui, par exemple. S'il y en avait qu'un à présenter, lequel vous aimeriez présenter ?
Je dirais celui que je viens de finir d'écrire, là, et que je vais envoyer donc à un éditeur bientôt. Qui va s'appeler donc Matin Transylvanien. En fait, ce nouvel ouvrage est un ouvrage justement qui évoque. Donc évidemment, je continue ma progression sur ce qu'on peut ressentir quand on est dans l'exclusion, dans le rejet de la société et ça. Donc pour voir à travers les yeux d'un banni, d'un exclu, d'un déchu. Et en fait, donc j'essaie d'évoquer comment on se sent quand on est confronté dans les crises, dans l'excès. Quand on a des fois la pulsion suicidaire tout en ayant envie de se battre pour vivre, aussi comment les traitements médicamenteux peuvent être vraiment une enclave dans le corps pour aussi essayer de survivre et d'avoir une vie normale pour éviter montrer qu'on soit un meuble obéissant à une industrie pharmaceutique.
Mais tout ça, vous l'avez assez bien expliqué. Vous avez eu une rencontre avec Rija dans une matinale, je crois, il y avait votre maman aussi. Hein, voilà, que j'avais écouté, et vous l'abordez très longuement et finement dans cet entretien.
Très 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 très, très importante émission, très belle émission.
Rija a beaucoup de qualités aussi pour
interviewer. Oh, extrêmement, cet animateur était génial, il avait vraiment le sourire et tout.
Il n'a que 21 ans, ça va assez vous dire.
Il donne des leçons à tous les autres animateurs qui se la racontent et qui bombent le torse alors qu'en fait il n'y a que dalle dans les glaouis.
Alors vous avez dit votre nom, mais hélas je l'ai déjà oublié. Voilà, ça sera plus facile en voyant le livre. Voilà, excusez-moi. Donc Pierre Castel qui a écrit La petite maison sur l'esplanade, l'histoire d'un squat, édité au Lys Bleu. Tiens d'ailleurs Vincent, vous êtes édité chez qui ?
Alors pour mon précédent recueil, Kaléidoscope, a été édité donc chez un éditeur qui s'appelle Publiwiz, à compte d'éditeur. Et les autres bouquins que j'avais sortis, donc la plupart jusqu'au 18e, ont été publiés à la compagnie littéraire. Et là, je vais essayer de voir, soit je propose mon nouveau livre à Publiwiz, soit donc grâce à mon amie et bienfaitrice Mademoiselle Fournon. Je vais voir le nombre 7 en espérant que le nombre 7 me permette de faire accoucher et faire vivre mon matin transylvanien.
En tout cas, c'est un bel homme que j'ai eu au téléphone lundi, Christophe, longuement, tu vois. Donc, on continue à travailler ensemble. Donc, on en revient à Monsieur Castel qui a écrit donc cette petite maison sur l'esplanade, l'esplanade de d'où ?
L'esplanade de Selle-Neuve. Voilà, donc ce livre est donc... À la suite d'un événement qui nous est arrivé, mon épouse et moi, au printemps 2022, un beau matin, nous avons retrouvé la maison de mon enfance à Selle-Neuve qui avait été squattée donc, par une famille. Et donc ce livre raconte notre histoire, c'est-à-dire toutes les démarches que nous avons dû entreprendre pour obtenir gain de cause et donc libérer cette maison. Et au-delà de l'histoire elle-même, donc on donne des conseils pour ceux qui se trouvent dans la même situation, ce qu'il convient de faire et ce qu'il convient d'éviter, toujours dans le respect de la loi, puisque notre boussole, c'était le respect de la loi. Et au-delà de l'histoire elle-même, je raconte un certain nombre de souvenirs d'enfance, puisque c'est la maison de mes jeunes années. Donc j'en profite aussi pour évoquer l'époque du quartier dans les années 60, en particulier l'époque où nous avions des pieds noirs qui s'étaient installés sur Esplanade à leur retour d'Algérie.
Elle a changé cette esplanade?
Oui, bien sûr, elle a beaucoup changé. D'ailleurs, j'ai réussi à retrouver une carte postale du début du siècle qui représente donc l'esplanade à l'époque où poussaient à peine les platanes que nous voyons.
Mais déjà, moi, je suis arrivée en 85 hein, et ça a beaucoup changé depuis.
Oui, voilà. Ça a beaucoup changé.
Et Celle-Neuve a beaucoup changé.
Celle-Neuve a beaucoup changé, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis dans la présentation du livre. À l'époque, on avait quand même beaucoup de commerce dans le centre du village et dans l'esplanade également. Et puis, petit à petit, bon, pour des raisons sans doute de circulation, ces commerces ont disparu et ils ont été remplacés par d'autres commerces, un peu plus exotiques d'ailleurs, sur l'avenue. Voilà.
En tout cas, là, en plus, la couverture est très belle. Je ne sais pas qui vous a peint ça, mais c'est très beau.
Écoutez, La couverture a été conçue par mon épouse, donc je lui rends hommage. Pas même explication. Ça, c'est la photo de notre maison. Et donc, mon épouse a eu l'idée de cette main captatrice qui est le symbole du squat dont nous avons été victimes. Donc, la photo a été reprise par l'éditeur, mais a été conçue par mon épouse.
Bah, merci beaucoup, Pierre Castel. Donc, la petite maison sur l'esplanade, aux lys bleus. On va parler au dernier garçon, au troisième garçon de la princesse, là. Alors moi j'ai entendu votre interview parce que c'est Marie-Agnès qui vous avait longuement interviewé à Claret. Donc c'est pas moi qui vous avais rencontré, c'était ma copine. De Claret à ici, ça fait un grand écart au niveau ne serait-ce que du public par exemple.
Ben, le public, déjà c'était dans un autre cadre, on était dans un milieu, dans un jardin, les gens avaient l'air un peu plus détendus. Là on est en ville à Montpellier, c'est différent, mais après les gens sont sympathiques de manière générale, donc...
Là, il doit être 2-3 heures de l'après-midi. Je ne sais pas, j'ai aucune notion du temps. 3 heures, oui. Donc, ça fait 5 heures, hein, quasiment, qu'il y a du monde. Vous avez déjà fait des belles rencontres, Anthony ?
Ben, j'ai parlé davantage à des gens que je connaissais déjà. Mais après... Ah, d'accord. Ben, après, quelques personnes, oui, qui avaient l'air ouvertes sur la littérature de manière diverse, voilà.
Vous nous parlez des livres, parce qu'il y a des livres, il y a des disques aussi sur votre table, de ce que vous présentez aux promeneurs, aux chalands qui passent.
Au non-chalands, vous voulez dire. Bah, je compose du blues rock, j'ai un CD en autoproduction, ensuite un recueil de poèmes, et également un pamphlet politique, où je critique la société capitaliste, et avec une approche spirituelle.
Ça, je me rappelle que vous en aviez parlé dans l'interview avec Marie-Agnès, justement, de ce pamphlet politique. C'est lequel, pareil, vous l'avez sur la table ? C'est celui-là ? On peut en donner le titre, peut-être ?
D'accord. La démocratie ou le règne de Satan, la quintessence du mal derrière la bien-pensance moderne.
En auto-édition ? Pour vous trouver, comment on fait ?
Ben, autrefois, j'avais une page Amazon, j'avais une page Wix, et là, je l'ai supprimée il y a 2 ans, parce que je faisais moins de ventes. Et j'ai pas vraiment de site internet pour l'instant. Il faudra que j'en refasse un d'ailleurs.
Une page Facebook, Anthony Jiménez. Oui. Bon, ben voilà. Si vous voulez en savoir plus, si on vous a donné envie de savoir ce qu'il y a dans la démocratie ou le règne de Satan, donc Anthony Jiménez, il a une page Facebook et vous l'échangez. Voilà. D'accord.
Ma page, c'est vrai. Je reste anonyme, on va dire, mais ma page Facebook, c'est Anto Guitarman. Voilà. Après, j'ai mon mail personnel que je peux donner aussi.
Pour finir, je vous propose d'échanger un peu avec Régine Fournon. Donc Régine, avec elle, on a débattu déjà de l'amour des seniors. Hein ? On a débattu de L'homme qui part. Très beau livre, très très émouvant. Et puis bien sûr, c'était Béziers. Hein, voilà, c'était Béziers qui m'a fait penser à c'était là. Voilà, je me suis dit, les histoires se recommencent. Hein, voilà, les vieux quartiers de Béziers, puis votre enfance, votre papa, voilà, tout ça, c'était formidable. Aujourd'hui, vous êtes à Figueroles. Le dernier livre que vous avez paru et que vous avez fait paraître, voilà, c'est ça. Hein, vous pouvez nous en parler un petit peu de tout ce que vous avez aujourd'hui sur votre table, Régine. Ou d'un que vous préférez, voilà.
J'ai 6-7 livres, 6 ou 7 livres que j'ai commis depuis 2016, dont 2 bouquins de poésie, actuellement. C'est vrai que je me tourne un peu plus vers la poésie actuellement parce que j'ai beaucoup parlé de moi, sans être vraiment narcissique quand même, mais j'ai un peu parlé de moi parce que, voilà, simplement parce que je portais des témoignages sur des périodes de ma vie qui sont en résonance avec les périodes de la vie de pas mal de personnes de mon âge, voilà. Et puis la poésie, donc ça permet aussi de dire des choses qu'on ne dit pas de la même manière. Voilà. Donc là, j'ai voulu parler des gens d'un certain âge, de leurs souvenirs, de leur manière d'être, du côté qui quelquefois peut être exaspérant ou au contraire très rassurant pour les autres, et puis de souvenirs qui sont des souvenirs d'enfance ou des souvenirs amoureux ou des souvenirs de toutes sortes.
Et pour vous avoir croisé à Claret, vous baladant dans les allées de Claret, il y a aussi une chose que vous aimez beaucoup dans les salons, ben voilà, vous êtes avec trois mecs autour de vous, vous aimez beaucoup rencontrer vos collègues, si c'est...
Les collègues, oui, effectivement. Et quand je suis dans les salons, c'est vrai que je suis rarement à mon stade. Je rate les ventes systématiquement. Mais là, par exemple, ici, je connais beaucoup de monde et ça me fait très plaisir. Voilà. Et donc, des gens, je trouve, qui ont beaucoup de valeur, déjà. Des gens qui écrivent des choses magnifiques, qui sont talentueux, qui sont simples. Aussi. Et vraiment, ce sont des choses qui me rassurent, je dirais, sur l'avenir. Dans une époque qui n'est pas tellement marrante. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont beaucoup de talent, beaucoup d'envie, de choses qu'ils font. Donc, c'est vrai, c'est très intéressant.
Merci beaucoup, Régine. Et puis, à très bientôt. On va se voir beaucoup, de toute façon, dans l'année qui vient. Merci.
Dans les événements littéraires aussi, ou même, peu importe, les rencontres, c'est ça, c'est le plus important. Parce que ça nous permet des fois d'échanger, de rencontrer, de découvrir d'autres auteurs, d'autres artistes. Et c'est comme ça que moi, je tenais à dire ça, parce que c'est grâce à des événements comme ça que j'ai pu rencontrer Régine et que nous avons pu participer ensemble dans un livre. Et elle m'a fait un poème.
Et ben voilà.
Et aussi Quincy Gain. Hein.
Ah ben Quincy, c'est un fidèle, t'inquiète pas. Donc merci beaucoup. J'ai du mal. Hein.
Je peux ajouter à ce que j'ai dit tout à l'heure, que j'ai une page auteur, donc Pierre Castel, Facebook, auteur, où on peut découvrir mes autres ouvrages au-delà du titre La petite maison dans la prairie. Pardon, c'est un lapsus sur l'esplanade. J'ai écrit trois autres livres qu'on peut consulter sur ma page Facebook.
Donc Pierre Castel, je vous demanderai peut-être un ami, comme ça je vous mettrai en lien, Vincent Blenet et Anthony Jiménez et la reine Régine Fournon, Goyer. Merci à tous les quatre en tout cas de vous être prêtés à cet exercice. Merci. Ainsi s'achève la deuxième émission consacrée au Salon du Livre de Figueroles. Vous avez pu rencontrer de nombreux auteurs et je vous propose de rencontrer encore d'autres et de nombreux la semaine prochaine dans le troisième volet de cette émission consacrée au Salon du Livre de Figueroles. À la semaine prochaine.
L'Aréopage, l'émission littéraire de Nathalie Bouly pour FM+.